Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue sur Bac FM 106.1.
Nous sommes Nel Voisin et Nausicaa Moncharmon, élèves de terminale. Et nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Guy Matchereau, artiste peintre, et Francis Jacques, directeur de la galerie Outre-Loire.
Guy Matchereau, Francis Jacques, bonjour.
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 Nous allons dans un premier temps commencer par interviewer Guy Matchereau, donc artiste peintre. La première question qu'on a à vous poser, c'est est-ce que vous appartenez à un style artistique particulier ou êtes-vous plutôt polyvalent ?
Alors, moi, personnellement, non, je n'appartiens à personne, ni à un style artistique en particulier. Mais, disons que les peintures peuvent en effet entrer en résonance avec telle ou telle école ou tel mouvement en peinture. Et dans ce sens, on peut parler d'abstraction, de figuration, d'arte povera, de minimalisme ou même de land art selon mes périodes en peinture. Mais en fait, ce qu'on appelle les styles artistiques dans la culture occidentale, hein, ce sont des formes de pouvoir. Et ces formes de pouvoir, elles ont structuré la représentation, les formes de représentation, les formes de savoir. Et donc, le style, en fait, ça n'existe pas. Dans le sens où c'est plutôt à réfléchir du côté de ceux qui regardent. Le pouvoir est plus dans celui qui regarde que dans l'objet regardé.
Est-ce que vous avez des sources d'inspiration particulières ? Est-ce que vos œuvres émanent des faits politiques ou culturels ou bien est-ce qu'elles proviennent d'événements personnels ?
C'est un tout, en fait. Au fond des choses, il y a une continuité mémorielle, il y a l'intimité qui entre en jeu. L'intimité, ça donne une forme de véracité aux choses. Enfin, ça donne de la véracité. Et après, on vient tout de suite pour parler de pouvoir et de la culture occidentale, des cases dans lesquelles on met des gens. Bon, voilà, on est dans ce monde-là. Alors moi, là, par rapport à la politique, en fait, il y a 2-3 jours, là, ils ont repassé, j'ai revu à la télévision, ce film, Il était une fois dans l'Ouest, d'Ennio Morricone. Voilà, je repense à cette scène de l'harmonica, qui est une scène assez connue, où, en fait, il y a le méchant, qui est joué par Henri Fonda, et donc il va mettre dans la bouche du petit frère, en fait, un harmonica, parce qu'ils ont pendu son grand frère. Et le petit frère, il sait qu'au moment où il va bouger, où il va s'écrouler, parce qu'il a son grand frère sur ses épaules, qui est retenu par une corde, un gibet, il sait qu'au moment, et il a cet harmonica dans la bouche, et au moment où il va bouger, d'une épaule, où il va s'écrouler, et il sait que son frère, du coup, va mourir. Et donc voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est ce qu'on aime le plus au monde, à un moment donné, qui peut s'écrouler et qui va forcément s'écrouler dans sa chute. C'est-à-dire que celui qu'on porte, on est dans cette situation-là, politiquement, je trouve, où celui qu'on porte, si on bouge d'une certaine manière, va finir par mourir. Donc, qu'est-ce qui reste de ça au niveau de notre responsabilité personnelle ? Question. Comment on va bouger, nous, les artistes, par exemple, ou les galeristes ? À quel moment on va plus pouvoir tenir ? Parce que, bon, là, on parle de politique culturelle, hein, on est d'accord. On a une ministre, en la personne de Madame Bachelot, là, en ce moment, hein, qui actionne une certaine politique. On pourra en parler au niveau du pass culturel, là, qui a été supprimé pour toutes les galeries d'art. Voilà. Et donc... Alors évidemment, on n'est pas les premiers parce qu'il y a les soignants, il y a les agriculteurs, il y a les commerçants. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont pas forcément issus de corporations, qui sont aussi dans une situation de difficulté. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'émeut finalement et qui me fait bouger par rapport à la politique. C'est-à-dire que comment chaque individu qui va plus pouvoir tenir risque de lâcher Et on est mis dans cette situation, nous, de faire notre petite musique. Hein. Bon, je prends l'image de l'harmonica. Hein. Et on est tenu à ça, quoi, à ce jeu-là. Et en fait, ce qu'on voit dans cette scène de film, c'est que l'art, finalement, arrive à éterniser ce moment-là. C'est-à-dire que la musique d'Ennio Morricone a éternisé ce moment-là. Derrière l'harmonica, il y a finalement toute cette idée-là pour moi. Et à chaque fois que le morceau passe, moi personnellement, j'ai vraiment les poils. Hein, et cet enfant avec son harmonica dans la bouche qui tient son frère qui va mourir.
Est-ce que le métier d'artiste vous est venu naturellement ou est-ce que justement vous avez eu un déclic ?
Alors en fait, c'est un peu les deux. Le déclic, oui, je l'ai eu. Moi, j'étais dans ce lycée-là, il y a pas mal d'années, en 74. Hein, j'ai passé mon bac en 74. Et on avait un prof dont je me souviens bien du nom, qui s'appelait Monsieur Vandersbroek. Et il y avait le tricentenaire de la mort de Rembrandt. Et donc, il a été dans le partage, hein. Puisqu'il a amené toute la classe à Amsterdam, au Rijksmuseum. Et là, grand déclic pour moi, je n'avais jamais vu de peinture comme ça, en vrai, des grandes peintures comme La Ronde de Nuit, et puis il y en a une en particulier. Et c'est une toile carrée qui doit faire 140 par 140, 142, je crois, de mémoire. C'est Bézabée Aubin. Voilà, et c'est cette, elle représente une toile figurative hein, qui date du XVIIe siècle, qui représente une femme nue qui sort du bain, qui est assise. À ses pieds, il y a une dame qui est censée être sa servante, qui lui essuie les pieds. Et elle tient, et cette femme tient nue, donc tient une lettre à la main que c'est une scène de la mythologie biblique, donc le roi David lui avait envoyée. Et en fait. Elle est vieille, enfin moi j'étais très jeune, donc pour moi c'était une vieille. Elle n'est pas très jolie, elle a des grands pieds, elle a des mains travailleuses, et elle est, mais en même temps, voilà, tout était là, quoi. C'était complètement magique, c'est-à-dire que comment la peinture peut éterniser, c'est ce que je disais tout à l'heure, éterniser, rendre vivant une pensée, une émotion, voilà. Et puis, de l'autre côté, en fait, bon, c'est un tableau qui a du poids. Mais moi, je crois que je suis le fruit de certaines situations, de certaines conjonctures, parce que j'ai pas étudié l'art ou la peinture. C'est pas quelque chose où j'ai grandi avec cette idée qu'on va devenir artiste ou faire des choses. C'est vraiment venu véritablement comme une réaction presque chimique à des situations qui étaient des situations qui sont nées dans la perte ou comme une forme d'après-guerre pour moi. Des situations de peur que ça puisse recommencer en... Voilà, en venant d'un lieu et d'un parcours où pour moi, il y a eu de la discontinuité, de la rupture, de la ruine. Et ça, c'est au cœur de mon existence. C'est ça qui m'a poussé, sans doute, à commencer à travailler. Et en même temps, je dirais que la ruine, là, cette discontinuité et ces formes de rupture, c'est aussi une façon de s'exposer dans tous les sens du terme. C'est une violence qu'on va chercher et en même temps dont on doit se protéger par les outils qu'on va aller chercher comme le crayon, le pinceau, le dessin ou la peinture. En fait, c'est des boucliers. Mais en même temps, c'est ce qui va être le prétexte pour s'y confronter et confronter dans tous les sens parce que ça m'a constitué. Ça m'a pas défini, mais ça m'a structuré.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours, par exemple, si vous avez fait une école d'art ?
Non, ben voilà, c'est ce que je disais. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire une école. Donc, je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Et puis, j'ai fait pas mal de petits boulots, mais où j'ai tant appris, quoi, finalement. Et puis, mon parcours, c'est fait à travers des expériences multiples et diverses, à travers les voyages, beaucoup dans les livres aussi, en allant dans les musées, hein, par des rencontres. Et donc, ça s'est enchaîné comme ça. Et puis, le travail, finalement, qui était la clé de toute chose, la répétition, la recherche, a fait que... voilà, j'ai finalement un peu officialisé ça sur le tard parce que j'étais pas très très sûr de moi. J'avais pas de bagage officiel comme des diplômes. Enfin, en tout cas, puisqu'on est là ici à Bac FM, j'invite tout le monde à essayer de structurer finalement, s'il a ce désir-là, d'aller de tenter les écoles. Je dis pas ça par frustration, mais parce que c'est qu'on est quand même dans un monde de liens, de communication, et c'est quand même une grosse part dans le métier, comme vous me dites, le métier d'artiste. Hein. C'est une grosse part, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les connexions, voilà. Puis moi, après, ça s'est enchaîné. Puis j'ai eu l'occasion de faire des portes ouvertes dans des lieux, des ateliers, puis ensuite des expos. Voilà.
Alors, justement, qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier d'artiste ?
Alors, le plus dur pour moi, c'est la sensibilité. C'est la sensation. Parce que ça, pour moi, c'est le moteur. En fait, ça me fait penser à ce que les médecins, enfin les dermatologues, en fait, appellent, vous savez, le capital soleil, là, quand on parle de capital soleil, c'est-à-dire que pour chaque peau, il existe une quantité maximum de rayons auxquels la peau pourrait être exposée dans sa vie. Donc, c'est cette idée que pour la sensibilité, ça serait, j'en sais rien à vrai dire, mais ça serait la même chose, que ça peut s'épuiser avec le temps.
En tant qu'artiste peintre, vous avez connu le syndrome de la toile blanche et comment avez-vous pu le surmonter ?
On se réveille parfois un matin puis on se dit que, on s'imagine qu'on a tout vu. Voilà, là c'est l'impasse, donc on voit plus rien, on tombe dans le rien. En fait, finalement, c'est comme sur la route. Hein. Parfois la visibilité elle est bonne ou elle est mauvaise, hein. Donc on se perd sur le chemin. Bah, parfois, il y a une petite lumière au fond de la clairière. Donc, on prend ce petit chemin. Parfois, il n'y a pas de lumière. Et puis, on essaie de retrouver des petits cailloux sur le chemin, comme le petit poussé. Et on retrouve la route. Mais ça peut être aussi une autre route. En fait, l'essentiel dans tout ça, c'est de jamais arrêter. De tenir sur la longueur et de travailler, quoi qu'il arrive, même si ça donne rien.
Quelles sont les étapes de création d'un tableau ?
Alors, il y a cette phrase qui dit qu'on devrait dire que les peintres entre eux ne devraient parler que de technique. Alors du coup, je vais vous dire ça un peu techniquement, parce que sinon on pourrait partir dans des considérations philosophiques intenses. Donc c'est des horaires auxquels il faut se tenir, et puis voilà, il faut créer vraiment cette structure-là. Et puis ça commence par des matériaux, parce qu'il y a quand même un rapport au réel, donc c'est tendre de la toile sur un châssis ou pas, tout est possible. Hein. Et puis, faire une induction de la toile, et puis voilà. Et puis après, il y a, en tout cas pour moi, il y a une forme de dessin préparatoire, ça peut être au fusain. Parfois, on peut attaquer direct au pinceau avec des jus comme de la térébenthine. On dilue pour faire des premières esquisses. Et puis, au fur et à mesure, on empâte. Enfin, on force les traits. Et puis, on part dans une recherche comme ça jusqu'à... Alors, à moins qu'on ait une idée en tête. Parfois, l'accident, c'est bien parce que ça permet de révéler des choses qui... Finalement, c'est la toile qui guide le peintre. Et puis, il ne faut surtout pas trop réfléchir, il faut y aller, quoi.
Maintenant qu'on a parlé des étapes de la création d'un tableau, comment est-ce que vous savez quand l'œuvre est terminée ?
Moi, j'ai tendance à dire, c'est quand le pinceau me tombe des mains. Bon, c'est un peu facile comme réponse. Mais c'est vrai que l'art, c'est une tension entre la vie et la mort. Il est tendu tout entier vers sa fin. Parce que quand le travail revêt cette perfection, qui est une perfection imbécile de montrer ses moyens, ça donne des morceaux de bravoure, mais c'est pas forcément ça qui donne du poids à une peinture. Donc c'est tragique en fait, mais l'art est tragique parce qu'il est incessamment inaccompli, comme toute fin. Une fin n'est jamais accomplie et donc une œuvre n'est jamais achevée. Un but toujours inaccessible. Alors, parfois, le pinceau, c'est vrai, il me tombe des mains. Et puis, il y a un recul, et puis parfois la toile elle se termine toute seule aussi, c'est-à-dire qu'on sait pas, et puis on la retourne un peu, puis quand on revient, d'un seul coup, tiens, elle est finie, c'est comme si elle s'était fait finir toute seule. Voilà. C'est assez mystérieux finalement, cette histoire de fin.
Est-ce que vous expérimentez d'autres types d'art que la peinture ?
Oui, j'ai travaillé sur du texte, autour du théâtre, du cinéma, et puis dans ce qu'on appelle, sous l'étiquette des beaux-arts, il y aurait la sculpture, mais pas tant que ça. Finalement, moi, c'est la peinture, là, mon sujet. Mais c'est nourri, finalement, de toutes les expériences et de toutes... C'est ça, la peinture, elle amène à... Elle se nourrit, finalement, de toute l'expérience de vécu.
Pouvez-vous nous parler de vos inspirations, les artistes que vous estimez et qui ont joué un rôle important dans l'élaboration de votre propre art ?
Bah, je vous ai parlé de ce déclic, ce Rembrandt. Donc, toute la peinture classique a été ma base en allant dans les musées. Donc, il y a ce tableau, Le radeau de la Méduse, qui est un tableau extraordinaire, qui a un poids, qui est un tableau qui a vraiment du poids. Et puis là, en ce moment, il y a Anselm Kiefer qui expose au Grand Palais Éphémère. Bon, par exemple, j'aime beaucoup ce peintre. Il fait des énormes paysages. Et finalement, ce que j'aime dans une peinture, c'est qu'elle soit abstraite ou figurative, c'est quand elle parle de mythologie, c'est-à-dire que la mythologie, c'est quand d'un seul regard, en un seul moment, tout est là. C'est-à-dire qu'en un seul regard, on a une lecture totale d'une histoire. Et voilà. Voilà, je dirais Anselm Kiefer, je pourrais parler de Francis Bacon, je pourrais parler de Sonia Delaunay, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui m'aiment en peinture, autant que d'hommes. Mais on pourrait passer des heures à parler des peintres comme ça.
Pouvez-vous nous parler des différentes expositions qu'ils vous ont été données de faire et où est-ce que le métier d'artiste a pu vous mener ?
Ben, le métier d'artiste, il m'a mené à Bac FM aujourd'hui, voilà, si on parle du présent. Et puis, je suis passé par des voyages, notamment le Japon, où j'ai passé 2-3 ans, où je me suis installé, j'ai exposé. Et puis Paris, où j'ai passé un petit peu de temps aussi, où j'étais basé. Puis mon Nevers depuis une douzaine d'années. Et puis ma rencontre avec Francis, qui est à côté de moi, là, à la Galerie Outre-Loire, qui est rue Ferdinand Gambon, là, au numéro 17. Et qui a été une rencontre. Et finalement, c'est ça, quoi. Moi, j'ai toujours fait... j'ai jamais été avec mon pressbook sous le bras... Moi, je suis pas trop sûr de moi par rapport à ça. Non, c'est les rencontres qui m'ont guidé, en fait. Et la rencontre avec Francis, c'est une très belle rencontre parce que du coup, on a pu être dans l'expérimental, dans des propositions esthétiques, politiques, culturelles. Voilà, on a travaillé sur la sensation et puis sur la quête de rencontre, l'ouverture. Voilà, on est des Neversois, mais on est aussi, pour jouer sur les mots, des Nevers les autres. Et c'est cette idée-là, moi, qui m'excite beaucoup.
Avez-vous des projets actuellement et quels sont-ils ?
Là, je suis en train de bosser pour enfin, j'ai 8 toiles, là, qui sont en cours pour un paquebot qui va être mis à l'eau... en septembre de cette année en Angleterre, à Southampton. Et puis oui, j'ai plein de projets dans la tête. J'en ai là, avec Francis, on en a toujours. Mmh. Et on entretient ce feu. Voilà, c'est très important d'avoir des projets, bien sûr.
En parlant de projets futurs, quelles sont vos ambitions et vos espoirs pour l'avenir ?
D'avoir la santé, hein, on est en début d'année, donc il faut... il faut avoir la santé. Je voudrais conserver mes yeux et mes mains parce que mon cerveau est plutôt dans mes mains. Et puis toujours garder cette relation à la mémoire ou à la transmission qui entoure tout mon travail. Et puis produire des images qui émanent de moi. Et puis développer, construire des imaginaires.
Nous allons à présent marquer une courte pause afin d'écouter l'extrait de la bande originale d'Il était une fois dans l'Ouest.
Nous voici de retour dans le studio de Bac FM en compagnie de Guy Machereau et Francis Jacques.
Francis Jacques, c'est à votre tour de passer à la casserole. Alors, concrètement, en quoi consiste le métier de galeriste ?
Concrètement, le métier de galeriste, c'était autrefois marchand de tableaux. Donc c'était très commercial, c'était l'aspect très commercial. Aujourd'hui, c'est plus humaniste, c'est plus, on est plus baigné dans l'univers des peintres, de quelques peintres, et essayer de les transmettre la sensibilité du peintre auprès des spectateurs, des visiteurs, des collectionneurs. Voilà, donc c'est l'aspect commercial existe, puisque une galerie ne peut exister que s'il y a un certain pourcentage de ventes. Mais pour ma part, c'est surtout de transmettre le travail de certains artistes auprès d'une population, qu'on essaye de faire dans Nevers depuis 4 ans maintenant. Et j'attache beaucoup d'importance à la qualité des artistes. Non pas forcément esthétique, mais la qualité personnelle, la sincérité des artistes. Et pour parler aux spectateurs, aux visiteurs qui viennent dans une galerie aujourd'hui acheter une peinture, ils veulent savoir qui est-ce qui est derrière la peinture. Quel individu se situe derrière cette peinture, quelle expression il a, quelle sensibilité il a. Donc c'est un boulot de relation un petit peu sociale aussi qui est dans ce métier. C'est ce que j'essaye de faire dans Nevers, c'est ce que j'essaye de faire auprès des jeunes, parce qu'il y a un potentiel, je pense, assez important dans la Nièvre aussi, artistique, qu'il faut faire connaître. Mais je ne me limite pas aux peintres locaux. Hein, je fais découvrir des artistes majeurs aujourd'hui dans l'art français, comme Pierre Soulages. Donc on a fait des expositions autour de Pierre Soulages, réunissant des artistes inspirés par le plus grand peintre français vivant, qui a 102 ans aujourd'hui. Hein, c'est un monstre de la peinture, Pierre Soulages.
Est-ce que votre galerie s'oriente plus vers un type d'art en particulier ?
Alors, c'est une affaire de transmission de sensibilité. Il y a sûrement de très belles peintures qui vont me laisser indifférente. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins connues, moins réputées, mais qui m'envoient une image qui me touche. Ce sont la plupart du temps des œuvres abstraites. Parce que moi, ce que j'aime dans la peinture, c'est le rêve. C'est la part du rêve. C'est de dire, je suis devant quelque chose que je ne comprends pas, que je n'ai pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. C'est pas un portrait simple, c'est un portrait qui exprime quelque chose. C'est pas un assemblage de couleurs, de formes que j'ai l'habitude de côtoyer au quotidien. C'est un autre univers, celui du peintre, qu'il essaye de me faire partager. Donc c'est plutôt, alors souvent, ma sensibilité personnelle se porte vers la peinture abstraite. Ça ne veut pas dire que quelquefois des choses figuratives ne me touchent pas.
Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir une galerie d'art ?
C'est parce que je m'intéresse à la peinture depuis toujours. Que j'avais un autre métier, mais je n'ai pas oublié la peinture durant toutes ces années. Et puis, me retrouvant à la retraite de la fonction publique, je me suis dit que c'était l'occasion de partager ça avec un public dans Nevers, parce que ça me semblait être cruellement absent, l'art moderne, dans cette ville. C'est-à-dire qu'on a de l'art, hein. On a le musée de l'art et de la faïence, mais on a quelques tableaux significatifs, mais très peu. Il y avait le centre d'art de Pouglézot qui vient de disparaître, mais au niveau galerie propre, il n'y avait rien, sauf la galerie Arco, mais qui est une galerie associative. Ça veut dire qu'ils ont un panel d'artistes assez limité. Et moi, j'avais envie de faire découvrir ce que j'aime dans la peinture moderne d'aujourd'hui, dans cette région.
Travaillez-vous avec un profil type d'artiste ?
Non, je n'ai pas de profil type. j'ai des gens, bien sûr, dont j'apprécie l'expression plastique, mais aussi l'individu. C'est-à-dire que c'est pas que juger sur un tableau, sur des dessins, sur des choses comme ça. Il me faut un certain temps pour apprécier la personne, justement, pour pouvoir la faire partager au public, de mieux apprécier l'artiste en tant qu'individu. Mais j'ai pas de profil, non, j'ai pas de profil.
Pouvez-vous nous parler d'artistes dont vous avez eu l'occasion d'exposer des œuvres ou d'artistes qui vous ont marqué, hormis Guy Machoro, par exemple ?
Alors, on a exposé déjà quelques artistes dans la galerie, des artistes locaux. Il y a Carlito Dodici, bien sûr, dont je parlerai après, puisque c'est un jeune Neversois qui a pris un nom d'artiste. En fait, son nom, c'est Charlie Jacques. Il a fréquenté ce lycée aussi il y a quelques années. Et donc ça, ce sont des valeurs que j'aimerais trouver encore chez d'autres jeunes artistes, c'est-à-dire des jeunes qui travaillent, qui s'investissent, qui sont dans la recherche, la permanence de la recherche, de la découverte. Et donc ça, j'aimerais en trouver beaucoup d'autres. Il y a des gens plus âgés qui ont une grande pratique artistique, comme Jean-Pierre Bord, qui a été professeur d'art plastique à Nevers pendant des années au lycée Alain Colas, qui a une proposition plastique qui est un petit peu hors des champs, puisqu'il travaille beaucoup sur le tissu, l'assemblage de tissu, les collages, etc. Dans le mouvement Support Surface, qui s'appelait Support Surface à une époque, avec Claude Viala. Donc c'est un élève de Claude Viala, dont les vitraux sont à la cathédrale de Nevers. Voilà, donc il y a des liens comme ça avec des artistes plus confirmés. Il y a aussi des découvertes que j'ai faites de femmes artistes comme Marie-Christine Jaladon, qui est parisienne, qui a... j'ai vu son travail dans un salon parisien où il y a une sélection déjà d'artistes qui sont exposés. Il y a Félicie Vignard, qui est une artiste de Toulouse, dont j'avais vu le travail à Pouilly, il y a tous les ans, la FIAC, un festival d'art contemporain dans les vignobles. Voilà, donc j'en oublie, mais enfin on a déjà un petit parcours avec ces artistes-là. Et puis il y en a un que j'ai pas découvert, mais que j'ai pu rencontrer en 2016, c'est Pierre Soulages, parce que j'ai été chez lui à Sète, dans sa villa, et ça a été sûrement le déclic pour faire la galerie, même si on n'a pas les moyens d'exposer les toiles de Pierre Soulages, qui atteignent aujourd'hui des sommes faramineuses. On a des fois une proposition d'une lithographie, d'une sérigraphie, qui reste à un prix abordable. Donc ça, c'était pas une découverte, mais c'était une rencontre majeure dans mon parcours. Côtoyer ces artistes-là, ne serait-ce que 2 heures, ça vous change un petit peu la vie, quoi.
Comment rencontrez-vous vos artistes et comment les choisissez-vous ?
C'est la manière dont ils viennent déjà m'ont rencontré, la sincérité qu'ils ont dans leur personnage, dans leur travail, et la qualité et la quantité. C'est-à-dire que beaucoup de débutants croient détenir quelque chose de merveilleux, ce qui est peut-être possible, personne ne peut être juge là-dedans, sauf que c'est le temps qui fera Guy Machoro à 40 ans de travail, 40 ans de peinture. On sait que son intégrité est totale dans sa démarche artistique, et ça rassure le galeriste et ça rassure éventuellement l'acheteur. Donc on peut pas dire, bon, aujourd'hui on a en peinture au niveau mondial des phénomènes de star system, un petit peu comme dans la musique ou au cinéma, etc. C'est-à-dire qu'on va promouvoir des jeunes artistes pendant quelques années, ça va faire un feu de paille et ils vont disparaître dans les limbes au bout de quelques temps. Et un artiste véritable, il est artiste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute sa vie. Hein, il prendra jamais sa retraite, Guy. et comme tous les artistes, hein, on y va jusqu'à la mort dans cette démarche-là. Et ça, c'est le jugement qu'on peut avoir. C'est en discutant avec l'artiste et de voir un peu ce qu'il a dans les tripes, quoi.
Quelles ont été vos influences ?
Alors, mes influences, c'était assez jeune. J'étais dans la région de Saint-Étienne et j'ai rencontré un artiste peintre, déjà assez âgé. Et ça a été la première découverte du monde de la peinture, qui m'a engagé d'ailleurs à peindre, et j'ai commencé à peindre de manière amateur, c'est-à-dire que moi j'en ai pas vécu de la peinture. Donc je distingue quand même ces peintres qui ont le courage de sacrifier beaucoup de choses dans leur vie pour se consacrer uniquement à la peinture, ceux qui peuvent pratiquer la peinture du dimanche, voilà. Donc en amateur, plus ou moins éclairé. Donc ça, c'était l'influence initiale. Après, ça a été des rencontres, comme on disait, toujours des rencontres qui font que petit à petit, j'ai découvert l'art moderne. J'étais pendant des années sur Paris, j'ai pu côtoyer les plus grands musées, m'imprégner un petit peu toute cette histoire de la peinture. Et ça a été, après cette rencontre aussi, finale, avec Pierre Soulages, qui a été le majeur dans mon parcours. Je voulais dire aussi sur les peintres, Guy avait un petit peu d'amertume en parlant tout à l'heure de son côté autodidacte, et moi je dois dire que les peintres que j'aime en général sont des autodidactes, sauf exception. Et vous avez le plus grand peintre aujourd'hui, Pierre Soulages, qui est un autodidacte. Donc il y a pas de... Je crois que la spontanéité, la sincérité, la spontanéité appartient plus à cette classe d'artistes qu'à ceux qui sortent des Beaux-Arts. Excusez-moi pour ceux qui sont aux Beaux-Arts, mais comme disait Jean-Pierre Bord, qui était prof d'art plastique, et qui disait à ses élèves, tu veux rentrer aux Beaux-Arts, très bien. Mais tu vas apprendre quoi aux Beaux-Arts? Les techniques et l'histoire de l'art. Maintenant, si tu n'as pas le talent aujourd'hui à 18 ans, tu ne l'auras pas plus à 50 ans. Donc ça, c'est important. Très, beaucoup de grands peintres sont des autodidactes, comme les artistes, musiciens et autres dans ce monde.
On est actuellement dans une période assez compliquée. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'impact de la crise sanitaire pour vous et quelles ont été les conséquences que ça a pu avoir sur les artistes avec lesquels vous travaillez?
Les conséquences, c'est comme tous les lieux de rencontre du public, hein, ça a été la fermeture pendant plusieurs mois. Ça a laissé des stigmates, et encore aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus trop sortir, venir dans des espaces de musées, de galeries, de cinéma, etc. Je crois qu'il y a une espèce de terreur dans la population avec ce virus. On voit beaucoup moins de monde, c'est sûr, que ce qu'on pouvait voir les années d'avant. Avec les artistes, on a fait une exposition qui s'appelait Imaginaire, lorsqu'on a levé le confinement, Imaginaire des confinés. Je voulais avoir justement leur ressenti de cette période d'isolement. Et pour la plupart, ils m'ont dit, tu sais, l'isolement, on l'a toujours. On l'a en permanence. L'artiste est toujours dans sa bulle. Et bon... Bien sûr, les contacts sociaux étaient un peu moins fréquents, mais ça n'a pas été d'une gêne majeure dans ce travail.
Quelles sont les expositions actuellement présentes?
Alors, actuellement, on a une exposition qui est le reste des expos proposés en fin d'année, avec des petits formats un petit peu. C'est une expo collective des artistes de la galerie qui sont regroupés. Et puis, on a une expo d'affiches, de sérigraphie de Shepard Ferré, dit Obey, artiste américain, street artiste américain, très engagé dans la cause humaniste, écologiste, et qui fait de très belles peintures qui sont exposées actuellement à la galerie. Ils sont très abordables au niveau prix. C'est un petit peu aussi ma politique, c'est d'avoir aussi des propositions abordables. J'étais dans le Pass Culture, dans la politique du Pass Culture pendant 2 ans. Donc, y avait les jeunes de 18 ans de la Nièvre pouvaient profiter jusqu'à 300 euros dans la galerie, mais aussi dans les librairies, cinéma, etc. Et puis, ça vient d'être supprimé il y a quelques mois. les arts graphiques ont été retirés pour... Quelle raison on ignore, du Pass Culture. Donc ça veut dire que la peinture est sortie de la culture pour Madame Bachelot. Je sais pas.
Eh bien, merci Monsieur Matchereau et Monsieur Jacques pour votre présence, ainsi que toutes vos réponses surtout.
Et merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. Vous êtes sur BAC FM 106.1 et nous vous souhaitons une bonne soirée.